Vous écoutez l'émission Paradoxa et les 20h sur Radio Campus Paris.
Paradoxa, questionner les pratiques culturelles et médiatiques à travers les sciences de l'information et de la communication. Actualité, entretien et analyse, tous les deux mois, le mardi à 20h sur Radio Campus Paris. Une émission présentée par Ilona Priam.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Paradoxa. Les nouveaux dispositifs médiatiques depuis l'apparition de la photographie, du cinéma, de la télévision et maintenant d'Internet ont profondément bouleversé la façon dont les individus entretiennent leur rapport au monde. Des images circulent en masse et étendent dans l'espace et dans le temps les possibilités de représentation des êtres humains. De nouvelles normes et attentes sociales se dessinent peu à peu au sein de notre société. Aujourd'hui, la quête de la visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, semble être au cœur de nouvelles revendications. Celles-ci prennent racine dans ce que l'on appelle « la société d'exposition », théorisée par le philosophe Bernard Harcourt dans son livre « La société d'exposition, désir et désobéissance à l'ère numérique ». Il définit les nouveaux enjeux relatifs à l'exposition de soi sur Internet et sur les réseaux sociaux ainsi. Nous nous exposons en nous rendant transparents pour quiconque possède les compétences technologiques nécessaires. Il sonne par ailleurs l'alarme sur les problématiques que suscitent de telles pratiques. La surveillance et la marchandisation de notre vie privée façonnent et changent ce que nous sommes. Nous devons nous en préoccuper dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard pour résister. Nous recevons ce soir Olivier Haïm, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Sorbonne Université. Chercheur au GRIPIC, le groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication, il est l'auteur de l'ouvrage « Les théories de la surveillance, du panoptique aux surveillance studies », publié en 2020 aux éditions Armand Collin et de Persistance Benjaminienne, écrit en collaboration avec Perrine Boutin et Jacqueline Chervin et publié en 2014 aux éditions Presse de la Sorbonne Nouvelle. Nous parlerons de son article « Les pratiques culturelles et médiatiques au regard des revendications expressives » publié en 2020 dans la revue L'Observatoire.
Paradoxa, sur Radio Campus Paris, 93.9.
On pense qu'on s'amuse simplement quand en fait on est en train de créer toute une nouvelle circulation d'informations, toute une nouvelle personne que nous sommes, notre personnalité numérique, qui ensuite se laisse piéger vraiment dans tout un système d'informations, de recommandations et de façonnement de notre subjectivité.
Olivier Haïm, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous parlez des enjeux que soulèvent les nouveaux dispositifs médiatiques, notamment sur les questions de transparence, d'intimité, d'exhibition, de l'identité, de la surveillance, des sociabilités numériques et de l'autonomie. Nous venons d'entendre un extrait d'une interview de Bernard Harcourt sur France Culture qui insiste sur le risque d'être pris au piège par les réseaux sociaux. En effet, on leur reproche aujourd'hui souvent de signer la fin de la vie privée. Vous expliquez de votre côté en définitive que cette appréhension n'est pas fondée. Est-ce que vous pourriez développer ? Est-ce que vous avez une réaction par rapport à l'extrait que l'on vient d'entendre ?
Oui, tout à fait. Alors, la citation de Bernard Harcourt est très caractéristique, effectivement, de ce qu'il porte comme regard sur les nouvelles pratiques numériques, c'est-à-dire à la croisée de ce que j'appellerais l'approche spectacle de la société du spectacle et l'approche plus surveillancielle de Michel Foucault. C'est un foucalien, donc c'est un grand lecteur de Foucault. Et donc effectivement, ce qui nous dit, c'est que dans une sorte de dépassement de l'opposition entre les deux modèles de société du spectacle et de la société de la surveillance, on entre, selon lui, dans un nouveau type de société médiatique qu'il appelle la société de l'exposition. Et en cela, bon, on en reparlera peut-être, mais effectivement, vous avez cité l'article sur Benjamin, Bernard Harcourt pourrait en quelque sorte être décrit comme effectivement le continuateur de Benjamin par Foucault, et nous montrer effectivement que les nouveaux médias, c'est sa lecture, hein, c'est sa lecture principale, les nouveaux médias numériques finalement façonnent une nouvelle manière de se présenter, de présenter le réel, de le médier, d'en faire une sorte de représentation, oui. Et moi, ce que je pourrais dire à partir de ça, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle le numérique, ce que Milad Douéi appelle la grande conversion au numérique, hein, c'est-à-dire pas seulement les technologies, mais finalement le nouvel environnement médiatique que ça produit, repose sur des nouvelles médiations. Un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport à soi et une nouvelle manière de se présenter. Et ces nouvelles médiations, effectivement, eh ben, elles produisent de nouveaux effets dans notre rapport social aux autres, dans notre rapport aussi intime à soi, et puis dans la rencontre entre les deux, c'est-à-dire la manière dont on se présente aux autres, avec des enjeux qui peuvent paraître très, très intimes, mais qui redéfinissent finalement le politique et le social de manière très générale. Alors oui, vous évoquez un certain nombre de notions qui sont d'emblée exhibées dès lors que l'on essaye de décrire ces nouvelles médiations. Ces nouvelles médiations qui reposent en fait sur l'idée que le rapport aux choses, à la réalité, à soi, aux autres, est de plus en plus direct. Hein, en fait, l'imaginaire principal du numérique, c'est qu'on serait dans quelque chose de plus vrai, de plus réel, de plus brut, de plus direct, et donc de plus transparent. D'où cette représentation très importante du numérique, cette notion-là qui est centrale, et puis qui s'accompagne de ce que j'appellerais, moi, pas seulement des paniques morales, comme le disait Stanley Cohen, mais aussi des paniques médiatiques, c'est-à-dire des représentations massives d'un basculement de la société vers quelque chose de radical, soit d'un point de vue positif, soit d'un point de vue négatif. Alors on pense plutôt aux paniques négatives, c'est-à-dire effectivement la montée en puissance du narcissisme, l'exhibitionnisme, la perte de la vie privée, la fin de la vie privée. Il y a aussi des paniques positives, hein, c'est-à-dire l'âge de l'accès, la résolution de tous les problèmes, la transparence qui serait un moyen de produire une démocratie vraiment directe, etc. On entend plein de paniques ou de prophéties positives. Mais effectivement, ce qui est apparu de manière nette au début des années 2010, on va dire, c'est cette hypothèse générale, donc que j'appellerais panique, portée à la fois par ceux qui n'aiment pas le numérique, qui n'aiment pas les réseaux sociaux, qui n'aiment pas le nouveau monde que cela produit, et ceux, justement, qui en sont les promoteurs, les chantres, à commencer par les industriels de la tech, comme on dit, c'est-à-dire cette hypothèse de la fin de la vie privée. Et là, ça nous montre, pour nous, chercheurs en médias, qu'il est nécessaire, au-delà des discours paniques massifs, d'aller vraiment voir ce qui s'y passe. Effectivement, il y a de nombreux travaux anglo-saxons, mais aussi francophones, sur ce qu'on pourrait appeler l'ethnographie des pratiques numériques telles qu'elles s'observent en réalité, où on voit bien que, je dirais, non seulement le souci de la vie privée n'a pas disparu, y compris chez les catégories de population dites jeunes, ou les générations, les millennials, etc. Non seulement le souci n'a pas disparu, mais dans les pratiques effectives, on voit bien qu'il y a toute une série de réflexivité sur ce que je peux montrer, ce que je ne peux pas montrer, comment je dois organiser ma visibilité. Voilà, et ça, c'est un terme, à mon avis, très important de ce qui se passe dans les pratiques numériques effectivement observables.
Mais justement, les nouveaux dispositifs médiatiques comme le smartphone et son appareil photo frontal font, je vous cite, « émerger une revendication supplémentaire, le droit d'être soi-même l'opérateur de la saisie de la performance ». Pourriez-vous expliquer cette notion de performance et en quoi marque-t-elle un véritable tournant dans les pratiques des utilisateurs ?
Alors oui, alors quand j'emploie performance, de la même manière que j'emploie revendication médiatique, en fait, c'est que je fais référence à un penseur, un philosophe que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est Walter Benjamin, et qui effectivement, dans ce texte matriciel qui s'appelle « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », en fait, dans les années 30, pose déjà les termes des questions qui n'ont pas cessé de nous préoccuper jusqu'à l'actualité la plus contemporaine, c'est-à-dire qu'il pose la question effectivement de ce que je pourrais appeler les trois mots en ex, c'est-à-dire l'exposition, comme Bernard Harcourt, c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure cette filiation, l'expression de soi et l'expérience. Et puis, il emploie deux autres termes qui sont celui, effectivement, de performance et celui de revendication. Alors, la performance, l'idée de Benjamin est très simple, c'est-à-dire que la reproductibilité technique, celle de l'audiovisuel à l'époque, qui est devenue en fait la reproductibilité numérique, on pourrait dire maintenant, pour lui, va amener finalement de nouvelles manières de s'exprimer, d'expérimenter son lien au monde, et donc on pourrait dire de s'exposer. Ce qu'il voit Benjamin, c'est la montée en puissance de ce qu'il appelle la valeur d'exposition. Et en fait, cette valeur d'exposition, ou exposabilité médiatique, consiste, selon Benjamin, à faire ce qu'il nomme des performances devant l'appareil. Il appelle l'appareil, c'est ce qu'on appellerait maintenant le média. C'est-à-dire que déjà dans le champ audiovisuel, les nouvelles médiations, les nouveaux appareils, comme ce micro devant lequel je suis en train de parler, m'inscrit dans des contraintes médiatiques qui, pour que je m'exprime, m'incite à le performer, c'est-à-dire à l'investir, à anticiper, dit Benjamin, anticiper la manière dont mon expression va être construite par cet appareil, diffusée et reçue par un public. Et donc, effectivement, nos outils, loin de l'idée peut-être qu'on est seulement dans une servitude volontaire, comme on l'entend beaucoup, ou dans une aliénation, elle favorise aussi des performances de la part des utilisateurs. Donc, elle favorise, je dirais, des manières de s'emparer des outils pour produire des contenus, et en l'occurrence des contenus qui consistent à s'exprimer soi-même, à exprimer ce que l'on est. Alors parfois, ces performances, elles sont très contraintes par l'appareil, par le dispositif. Et puis parfois, et c'est là encore que l'approche ethnographique nous fait comprendre ce qui se passe vraiment, parfois ces performances, elles montrent une certaine forme de créativité, de détournement, voire de virtuosité de la part des individus qui s'en emparent. Et je finis donc sur votre question, c'est-à-dire celle de la revendication. On croit souvent connaître le texte de Benjamin autour de la chute de l'aura, la montée de l'exposition, etc. Mais il y a d'autres formules qui sont extraordinaires pour nous, il y a presque 100 ans, lorsque, par exemple, il voit que cette exposabilité, donc c'est-à-dire ces performances devant les appareils, vont finalement gagner l'ensemble de la population. Et il a cette phrase assez extraordinaire, à bien avant Andy Warhol et son fameux quart d'heure de la célébrité, c'est cette idée que, je cite, « chacun peut aujourd'hui légitimement revendiquer le droit d'être filmé », c'est-à-dire d'être exposé sur les nouveaux appareils, d'être photographié, d'être présenté, d'être filmé, etc., d'être télévisé, pourquoi pas, d'être numérisé ou présent sur les réseaux numériques, on pourrait ajouter. Et effectivement, les nouveaux médias, on le voit, vont favoriser de nouvelles revendications au fur et à mesure de leur évolution, c'est-à-dire de plus en plus l'idée que l'appareil, pour citer Benjamin, est là pour m'exposer, mais que je peux moi-même, en tant qu'individu, utiliser l'appareil pour m'exposer moi-même un peu comme je le veux dans le cadre des fameuses contraintes, effectivement, de ces appareils. Et donc, ce qu'on voit, effectivement, autre panique morale médiatique quand est arrivé le selfie, par exemple, c'est-à-dire qu'on criait à une forme de narcissisme généralisé, soit dit en passant, comme avec l'invention de la photographie, mais qui traduisait en fait des nouvelles revendications, c'est-à-dire que les individus, pour être exposés, peuvent eux-mêmes de plus en plus exiger, aurait dit Benjamin, être les opérateurs de cette exposition, c'est-à-dire d'utiliser eux-mêmes dans des nouveaux gestes médiatiques, eux-mêmes les outils pour s'exposer, parfois choisir avec quel filtre, dans quel cadre, dans quel angle, vers quel type de public, vers quel type de communauté, etc. Et donc on pourrait effectivement faire une histoire récente des nouvelles médiations à travers ces nouvelles revendications expressives ou nouvelles revendications de l'exposabilité médiatique.
Restez avec nous sur Radio Campus Paris. Vous écoutez l'émission Paradoxa et on se retrouve juste après une petite pause musicale.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Sur tes hanches, puis un travelling panorama sur ta poitrine grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, tes biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Vous venez d'écouter le cinéma de Claude Nougaro. Vous êtes toujours dans Paradoxa sur Radio Campus Paris. Et ce soir, nous parlons des réseaux sociaux et de l'économie de la visibilité.
Paradoxa sur Radio Campus Paris 93.9.
Nous parlions des nouvelles revendications qui accompagnent l'utilisation des réseaux sociaux et nous recevons ce soir Olivier Haïm, chercheur en sciences de l'information et de la communication au GRIPIC. Olivier Haïm, avec ces nouvelles revendications inhérentes au fait que chaque utilisateur puisse désormais filmer et publier du contenu, on observe, c'est vrai, une déverticalisation du pouvoir médiatique, et ce ne sont plus seulement les médias traditionnels qui détiennent l'hégémonie des contenus informationnels. Comme vous le disiez tout à l'heure, les usagers deviennent également acteurs et peuvent revendiquer une nouvelle forme de légitimité. C'est vrai qu'on le voit notamment avec l'essor du format du témoignage, qui semble davantage toucher les spectateurs, puisque plus proche de la réalité qu'un article de journal plus désincarné. Quelles sont, selon vous, les conséquences d'un tel phénomène dans l'espace public ?
Alors, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'essor de ces nouvelles revendications, selon des prophéties aussi politiques de la deuxième partie du XXe siècle, chacun est potentiellement en train de devenir média, son propre média, mais aussi opérateur médiatique et opérateur politique, finalement, par les nouvelles médiations de l'espace public. L'extension du champ de l'exposabilité, pour parler comme Benjamin, eh bien, on la voit aussi dans l'extension du champ, par exemple, de la photographie, du filmage dans l'espace public. On voit très bien comment, dorénavant, tout événement de l'espace public, à commencer par ce qui se passe dans la rue, une manifestation, un débordement, une violence, va faire l'objet d'une revendication collective et individuelle à filmer ce qui se passe. Vous voyez, à effectivement rendre compte, témoigner, vous avez raison, d'une situation. Donc les évolutions qui sont sous nos yeux, qu'on est en train d'expérimenter, d'éprouver, de constater, elles sont immenses. Et en fait, et c'est tout à l'heure Foucault que j'évoquais, en fait, elles témoignent d'un certain nombre d'évolutions dans ce que Foucault appelait dans « Surveiller et punir », hein, qui est un texte décisif sur ces questions-là, l'économie de la visibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça que le mot de visibilité est finalement important et peut-être qu'il surplombe celui de reproductibilité ou d'exposition, au-delà des modèles même de Bernard Harcourt ou de ce que décrivait Benjamin à l'époque, c'est que la visibilité devient une économie et une économie politique. Je dirais. Parfois, j'aime bien dire que ça devient effectivement une pragmatique, précisément parce que chacun, dorénavant, performant ses appareils ou produisant des performances devant l'appareil et derrière l'appareil, devient un acteur de cette économie, de cette pragmatique de la visibilité. Donc, les questions qui changent, qui sont fondamentales, qu'on voit tous les jours dans nos journaux, c'est les questions de qu'est-ce que c'est que rendre visible une situation, la rendre invisible, l'invisibiliser, la faire sortir de son invisibilité pour témoigner. Et on le verrait, pour faire le lien avec les questions médiatiques qu'on évoquait tout à l'heure, on le verrait peut-être dans, je dirais, cette notion de live ou de life, casting par exemple, hein, de liveness, hein, qui est une notion très proche de celle de performance. Qui dit performance dit faire vivre un moment en train de se produire. Et on voit très bien que les nouveaux gestes médiatiques, les nouvelles pratiques médiatiques, elles consistent à effectivement faire du live, à streamer, à faire du live logging, du live casting, de rendre compte au moment où une situation se déroule de ce qui est en train de se passer, avec des gestes qui sont en train de devenir des gestes, je dirais, des formules, comme on aurait dit en histoire de l'art, c'est-à-dire des formules de presque anthropologique, c'est-à-dire brandir son appareil, faire des plans séquences, faire des comptes rendus vidéo de situation. Et donc, pour finir de répondre à votre question, effectivement, ce qui se passe dans l'espace public, c'est presque une nouvelle conflictualité. C'était Umberto Eco qui parlait de guérilla sémiotique. On voit bien comment cette guérilla, cette conflictualité, ces controverses politiques, elles se placent maintenant de plus en plus sur des gestes qui consistent effectivement à être soi-même opérateur de la saisie de la réalité, à rendre compte de choses qu'on ne voyait pas. Je pense par exemple à toutes les questions qui portent sur les comportements sexistes dans la rue, le harcèlement. Il y aurait aussi cet exemple très, très important de L214, c'est-à-dire rendre visible, comme dit l'association, les processus d'abattage d'animaux tels qu'ils se produisent réellement. Vous voyez, toutes ces nouvelles manières de à la fois rendre visible, et effectivement aussi, il ne faut pas négliger ça, de rendre punissable, pour paraphraser Michel Foucault. Hein, c'est-à-dire, on avait un peu oublié le punir dans le surveiller et punir, et le punir revient de manière très forte avec des nouveaux gestes aussi, des nouvelles revendications ou des nouvelles injonctions à participer d'un point de vue médiatique, qu'on pourrait appeler le bannissement, le signalement. Hein. Donc le témoignage, mais pas seulement le témoignage pour rendre visible, mais aussi pour qu'il y ait une action sur ce qui a été rendu visible et qui est souvent effectivement de l'ordre d'une sanction, d'une dénonciation, d'un signalement, etc. Donc les conséquences, elles sont majeures sur notre espace à la fois public traditionnel, hein, je pense à ce qui se passe dans la rue, mais dans nos espaces publics médiatiques, c'est-à-dire dès lors que, effectivement, Internet peut devenir le forum ou l'espace dans lequel est intervenue une prise de parole, un geste, une vidéo qui peut susciter le débat.
Je vous cite, il est vrai que l'injonction à se socialiser par l'intermédiaire de ces circuits expressifs n'a jamais été aussi forte et que l'économie de la visibilité est de plus en plus complexe. Vous parlez ici d'injonction à intégrer ces circuits expressifs afin de pouvoir s'adapter notamment aux nouvelles attentes construites par les réseaux sociaux. On le voit, cette injonction à la visibilité amène une mise en scène médiatique. C'est-à-dire que nous ne sommes plus seulement des spectateurs, nous devenons acteurs de notre propre performance médiatique. Cette mise en scène de soi et cette représentation travaillée de notre identité pourraient-elles avoir un impact plus important sur la façon dont nous nous constituons en tant qu'individus ?
Ah bah oui, ça je pense que c'est de plus en plus vrai et vérifiable dans l'analyse, là pour le coup, individuelle, personnelle, interpersonnelle, sociale, de nos interactions, de nos performances, de nos expressions, de nos expositions. Comme le disait Bernard Harcourt dans la petite citation, enfin plutôt l'extrait que vous avez fait écouter au début, il y a effectivement ce que les théoriciens du numérique, peut-être même d'Internet, ont vu depuis le départ, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, alors pas égalité, mais il y a une sorte de dédoublement non pas de personnalité, mais de dédoublement des performances sociales des individus. Ce qui fait qu'effectivement, il y a double de données, comme disent certains des théoriciens de la surveillance, d'ailleurs. Cette sorte, Bernard Harcourt a une expression aussi, c'est cette sorte doppelganger. Doppelganger, c'est le double en allemand, le double de soi. C'est-à-dire cette entité qui est à la fois nous-mêmes et un autre, d'une certaine manière, qui est présent sur les espaces numériques, est l'objet de lui aussi de performances, de production de discours, qui est à la fois nous et une sorte de représentation numérique performée de nous sur les réseaux. Pourquoi performée ? Parce que c'est là qu'on voit directement dans l'image, la personnalité, comme aurait dit Walter Benjamin, la personnalité des individus qui est présent sur les espaces numériques, à commencer par les réseaux sociaux, ce sont des performances totalement inscrites dans cette économie de la visibilité que j'évoquais tout à l'heure. Il y a injonction parce que les médias sociaux produisent un environnement. Et là, il faudrait presque citer plutôt McLuhan, une écologie médiatique dans laquelle il est très difficile d'être absent, hein, d'une part, socialement. Et puis parce que la visibilité que j'évoquais tout à l'heure, eh ben, elle va être très très proche de ce qu'on aurait appelé plus anciennement la publicité de soi. C'est-à-dire rendre public, c'est rendre visible, et être public de plus en plus, c'est être visible sur ces espaces. Je prends des exemples qui peuvent paraître plus anecdotiques. Mais par exemple, ce qu'on pourrait appeler l'employabilité, hein, le champ du travail. En fait, ce n'est pas anecdotique du tout. Hein. Mais le champ du travail, effectivement, vous impose de plus en plus à vous construire une personnalité qu'on dirait employable. C'est-à-dire qui va montrer les signes dans un certain nombre d'espaces sémiotiques, à commencer par les espaces numériques, d'un certain nombre de qualités, de valeurs, de normes qui correspondent à ce qu'on appelle l'employabilité et qui va se mesurer sur un certain nombre de performances, effectivement, de visibilité. Je pense à un réseau social peut-être dont on parle moins en termes d'exposition, mais qui est très important comme LinkedIn, où effectivement, en permanence, les individus, parfois jeunes, qui rentrent sur le marché du travail, deviennent employables parce qu'ils arrivent à produire une image de soi, une visibilité de soi sur ces espaces qui est conforme aux attentes du marché. Et là encore, je citerai Walter Benjamin, qui déjà à propos de l'acteur de cinéma, dont il montrait l'évolution par rapport au comédien de théâtre, puisque l'acteur est directement en train de faire une performance devant l'appareil, alors que le comédien de théâtre est encore en train de faire une performance devant un public. Mais, dit Benjamin, l'acteur de cinéma, qui est un petit peu notre ancêtre médiatiquement à tous, eh bien, il doit toujours avoir en tête, anticiper, qu'au final, il va être sur le marché, dit-il, le marché du public, c'est-à-dire le marché du cinéma, c'est-à-dire le marché du regard, le commerce des regards, comme aurait pu dire Marie-Josée Mondzin, et qu'effectivement, au final, il sera l'objet d'une... Alors, Benjamin ne dit pas ça, mais on dirait ça, même de manière vernaculaire, les individus disent ça maintenant. Il a besoin d'être validé par la communauté, validé par le marché des regards. Et donc, effectivement, cette injonction, elle est là parce qu'il y a un marché. Il y a un marché des regards, des visibilités, qui va vous valider. Hein. Les performances médiatiques qu'on évoquait tout à l'heure, c'est aussi, on peut les mesurer dans le degré de validation sociale qu'elles vont produire de la part de ceux qui regardent, c'est-à-dire la communauté elle-même qui peut produire des performances qui vont être aussi validées, et puis elles peuvent être mesurées dans l'intensité de la partageabilité, de la circulation, autrement dit, pour employer le terme qui, je dirais, est très proche, qui serait peut-être la formule actuelle de la reproductibilité de Benjamin, c'est-à-dire la viralité. C'est-à-dire, la viralité, c'est une mesure des performances, des productions médiatiques des individus. Et donc, effectivement, cette injonction, elle est, selon moi, grandissante, parce que ça devient très, très dur de ne pas y être, de ne pas être sur ce marché-là, parce que ce dédoublement de soi, numérique, pas de la psyché, mais de l'identité précisément, eh ben, elle devient de plus en plus importante pour valider socialement les individus, les valider sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan, je dirais aussi, de leur séduction, puisque la construction, le marché de la visibilité, ben, on le trouverait aussi sur les applis ou les réseaux sociaux de rencontres, etc.
Et ce sera ma dernière question. Les utilisateurs s'adaptent aujourd'hui aux nouvelles attentes construites par ces plateformes médiatiques, mais c'est assez paradoxal parce qu'ils vont même jusqu'à adopter un certain mimétisme qui semble amener une standardisation et une homogénéisation des contenus publiés. Quelles conséquences culturelles et sociales cela peut-il avoir sur les individus, cette fois en dehors de la sphère numérique ?
Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ces injonctions, devenant fortes, en fait, fabriquent des revendications, comme on le disait au tout début, mais des revendications qui sont elles-mêmes contraintes non seulement par les dispositifs, par les interfaces, par le design des interfaces, qui est vraiment au cœur de cette économie de la visibilité qu'on évoquait tout à l'heure, mais qui est aussi, qui produit aussi des normes, finalement, des normes de comportement, des normes de production, des normes de validation. Hein. Qui dit validation, dit viralité, dit effectivement que ces fameuses performances devant l'appareil, malgré toujours les possibilités de créativité des individus, qui sont très grandes, globalement, massivement, elles reposent sur, comme vous le dites, un effet de standardisation, de massification, de reproduction. Et là, on retrouverait effectivement la reproductibilité de Benjamin. Et j'ai essayé de faire le lien dans un ou deux articles aussi. Mais moi, ce qui me frappe à l'oreille, vous voyez, c'est par exemple comment 1935, la reproductibilité de Benjamin résonne, rime avec ce qu'on appelle depuis quelques années, par exemple, l'instagrammabilité. Vous voyez la rime du suffixe qui dit bien qu'effectivement, c'est bien ça, l'instagrammabilité, ça dit bien qu'un nouveau ensemble de contraintes et de normes dans la performance face à l'appareil s'est installé pour juger qu'effectivement, collectivement, eh ben, faire des photographies à l'heure actuelle, ça répond à un certain nombre de cahiers des charges, de ce qui esthétiquement, socialement, politiquement, va bien correspondre avec les contraintes d'Instagram, en l'occurrence, mais aussi les normes, hein, les attentes, les revendications partagées par ceux qui utilisent cette plateforme-là. Donc effectivement, il y a ce risque, mais ce n'est peut-être pas qu'un risque, hein. Il y a en tout cas cette évolution, cette tendance vers des formes de standardisation, d'homogénéité très forte des productions, de conformité, d'une manière encore plus simple. Certains diront peut-être d'aliénation aux outils, c'est-à-dire de correspondance avec les attentes. Alors, on le voit bien d'ailleurs, hein, comment vous posiez la question de la sphère publique qui ne serait pas seulement numérique, qui serait plus traditionnelle, et les effets entre les deux. Mais on voit bien comment cette machinerie de normes autour de la visibilité, autour de l'effet finalement non pas de séparation comme on l'a cru au début entre le réel et le virtuel, mais d'intrication permanente des deux sphères, eh ben, elle amène à de nouvelles paniques ou de nouvelles prophéties comme par exemple le métavers. Le métavers correspond, me semble-t-il, à ce moment où on se dit qu'effectivement, les deux sphères étant de plus en plus intriquées, eh ben, notre visibilité, cette économie de la visibilité, de l'exposition de soi, elle va de plus en plus converger dans un espace intermédiaire, médian entre les différentes manières de s'exposer.
Merci beaucoup Olivier Haïm d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Sorbonne Université, mais également chercheur au GRIPIC, le groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage « Les théories de la surveillance du panoptique aux surveillance studies » publié en 2020 aux éditions Armand Collin et de « Persistance benjaminienne » écrite en collaboration avec Perrine Boutin et Jacqueline Chervin et publiée en 2014 aux éditions Presse de la Sorbonne Nouvelle. Merci d'avoir été avec nous dans l'émission Paradoxa. Au cœur de nouvelles revendications qui accompagnent l'évolution de nos dispositifs médiatiques, des enjeux sociaux, politiques et culturels se dessinent peu à peu dans nos sociétés. En passant par la société d'exposition, l'économie de la visibilité et les performances devant nos appareils, nous pouvons chacun revendiquer le droit à être filmé. Les nouvelles médiations modifient notre rapport aux autres et à la réalité, mais loin de restreindre ces changements au narcissisme ou à la fin de notre vie privée, nous pouvons également voir les réseaux sociaux et le numérique sous une autre facette. L'accès, la transparence et la démocratie directe. De nouveaux infléchissements ne tarderont sans doute pas à apparaître avec l'apparition d'autres techniques et pratiques médiatiques. Merci encore à Olivier Haïm pour ses éclaircissements. N'hésitez pas à aller consulter son article « Les pratiques culturelles et médiatiques au regard des revendications expressives » pour aller plus loin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et vous dis à très bientôt dans l'émission Paradoxa sur Radio Campus Paris. Une émission présentée par Ilona Priem.